VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du mardi 10 octobre 2023. Les États-Unis qualifient officiellement de coup d'État la prise de pouvoir des militaires au Niger.
C'est un moyen de dire à tous les autres pays africains que l'argent des États-Unis est réservé pour les pays démocratiques.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, que nous retrouverons dans la partie magazine. Les Libériens votent aujourd'hui dans le cadre de la présidentielle. Le président George Weah est candidat pour un second mandat. En RDC, lourde peine pour des membres d'une secte religieuse après un carnage de l'armée à Goma. À Madagascar, l'ONU s'inquiète d'une répression disproportionnée avant les élections. Israël dit avoir repris le contrôle de la frontière avec Gaza après de nouvelles frappes. Ne manquez pas notre page fort ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Les États-Unis ont formellement qualifié aujourd'hui la prise de pouvoir des militaires au Niger en jeu de coup d'État et annoncé en conséquence la suppression de 442 millions de dollars d'aide économique. Washington va toutefois maintenir son aide humanitaire, alimentaire et sanitaire qui permet de sauver des vies au bénéfice du peuple nigérien. Les États-Unis ont également l'intention de continuer à travailler avec les gouvernements de la région, y compris le Niger, pour faire avancer les intérêts communs de l'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis ont aussi demandé la libération du président Mohamed Bazoum ainsi que sa famille. Toujours au Niger, une page se tourne pour la France avec le départ des premiers militaires du pays dans un convoi terrestre sous escorte locale depuis l'ouest du pays. Un convoi de soldats en provenance de Tabaré-Baré est arrivé à Niamey avec des poids lourds transportant du matériel et des blindés et un avion avec du matériel français et un premier groupe de militaires prioritaires s'est envolé de Niamey lundi, selon des sources militaires. Les Libériens étaient aux urnes ce mardi 10 octobre pour des élections générales. 20 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le président sortant, George Weah, et l'ancien vice-président, Joseph Boaké, son principal rival, le point avec Nani Talani.
Plus de 2,4 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. L'ancienne star du football, George Weah, qui a accédé au pouvoir en 2017, fait face à plusieurs candidats, dont l'ancien dirigeant de Coca-Cola, Alexander Cummings, et l'avocat Twailan Ganglou. Il y a surtout l'ex-vice-président Joseph Boakai, que George Weah a battu au second tour en 2017. Il a noué des alliances avec des barons, dont l'ancien chef de guerre et sénateur, Prince Johnson, qui avait soutenu M. Weah il y a 6 ans. Pour sa part, Weah, l'unique ballon d'or africain à ce jour, promet de faire construire de nouvelles routes, de créer des emplois et de poursuivre la guerre contre la corruption dans son second mandat après avoir construit des hôpitaux et instauré la gratuité de l'enseignement. Le vainqueur doit obtenir 50% des suffrages exprimés plus au moins une voix supplémentaire afin d'éviter un second tour prévu début novembre entre les deux meilleurs premiers. La commission électorale doit publier les résultats définitifs dans les 15 jours. L'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO et les États-Unis ont déployé des observateurs.
En Mauritanie, les avocats de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz se sont retirés de son procès pour enrichissement illicite présumé en dénonçant la violation des droits de leurs clients par la Cour, ont indiqué deux d'entre eux ce mardi. Le procès reprendra le 23 octobre, le temps pour les avocats commis d'office de prendre connaissance du dossier. La Cour militaire de la province du Nord Kivu dans l'est de la RDC a condamné à mort Ephraim Bissimwa, leader de la Wazalendo, qui était à l'origine de la manifestation réprimée par l'armée le 30 août. 63 personnes ont été condamnées et 52 autres acquittées. Davantage avec Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Le verdict est tombé lundi après-midi au cours d'une audience publique tenue dans la cour de la prison centrale Mounzenze à Goma. Ils sont au total 63 sur 143 détenus qui ont été condamnés les uns à la peine de mort et les autres pour 10 ou 20 ans de servitude pénale. 52 ont été acquittés. Parmi ceux qui ont écopé de la peine capitale figure Ephraim Bissimwa, leader de la secte Wazalendo. Ils sont reconnus coupables de participation à un mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs et meurtre. Les proches des détenus se disent choqués par la décision de la Cour, car nombre d'entre eux ont perdu des êtres chers lors de la répression de la manifestation qui a coûté la vie à plus de 50 personnes. Certains ont exprimé leur désarroi, estimant que les victimes ont été transformées en bourreaux. Les avocats de Bissimo Ephraim ont promis de faire appel du verdict. Rappelons qu'un officier a déjà été condamné à mort dans cette affaire et 3 autres militaires à 10 ans de prison. Zanem Netizaïdi, à Goma, pour VOA Afrique.
Et toujours dans l'est de la RDC, au moins 7 civils tués et mutilés au nord de Goma ce mardi, près de Rumangabo, à une quarantaine de kilomètres au nord de Goma, selon le chef de la localité et des témoins. Les Nations Unies dénoncent la détérioration de la situation des droits de l'homme à Madagascar. Avant l'élection présidentielle de novembre, l'agence onusienne cite la répression inutile et disproportionnée de plusieurs manifestations. Les précisions avec Deli Diko.
L'ONU fait état de la répression de 4 manifestations pacifiques en 2 semaines à l'approche de la présidentielle le 9 novembre à Madagascar. Selon Seif Magango, un porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, certaines des personnes arrêtées lors des manifestations sont toujours détenues. Une manifestation convoquée par 11 candidats de l'opposition les 2 et 3 octobre a été dispersée par les forces de sécurité qui ont utilisé des gaz lacrymogènes et frappé puis arrêté des dizaines de manifestants et de passants. Les manifestations qui ont suivi les 6 et 7 octobre ont également été réprimées par un usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc par les forces de sécurité. Les préparatifs du premier tour du scrutin se font dans un climat dégradé. L'opposition dénonce une machination du pouvoir tentant à favoriser le président sortant, André Rajoel. Les États-Unis et l'Union européenne disent suivre le processus électoral avec grande vigilance et l'ONU demande aux autorités malgaches de garantir le respect des droits pour des élections libres et transparentes.
Et le gouverneur de la Banque centrale du Burundi a été arrêté. Il est poursuivi pour corruption passive et détournement des biens publics. Dieudonné Murengere Antoari, qui avait été limogé dimanche, est poursuivi pour atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au 4e jour de la guerre déclenchée en Israël par le Hamas, l'armée israélienne a annoncé avoir repris en partie le contrôle de sa frontière avec la bande de Gaza. Le Qatar a affirmé qu'il était trop tôt pour des négociations. Claire Morin-Jibou.
Israël a indiqué avoir retrouvé environ 1500 corps de combattants du Hamas sur son sol au 4e jour de la guerre déclenchée par le mouvement islamiste palestinien. L'armée israélienne qui pilonne la bande de Gaza depuis cette attaque a annoncé mardi avoir plus ou moins repris le contrôle de la frontière avec l'enclave palestinienne. Le Hamas a lancé son offensive samedi à l'aube. Il a dit avoir tiré 5000 roquettes sur Israël pendant que ses combattants ont utilisé des explosifs et des bulldozers pour entrer dans le territoire israélien, attaquant des positions militaires et des civils en pleine rue. Le Hamas a pris en otage quelques 150 civils et militaires. L'armée israélienne a déclenché samedi l'opération Sabre de fer, menant des frappes aériennes et détruisant des bâtiments présentés comme des centres de commandement du Hamas à Gaza. Plus de 187 000 Palestiniens ont été déplacés à l'intérieur de Gaza à cause des frappes, selon l'ONU. 3 salves de roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban vers Israël et l'armée israélienne a répliqué par des bombardements sur la région frontalière.
L'Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe ont plaidé aujourd'hui pour un soutien financier durable aux Palestiniens à l'issue d'une réunion conjointe de leur ministre des Affaires étrangères à Oman. Les deux parties ont souligné l'importance d'un soutien financier à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, de la poursuite de l'aide humanitaire et de développement aux Palestiniens dans les territoires occupés, a déclaré le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à Muscat, la capitale du sultanat d'Oman. Une semaine après la destitution historique du président de la Chambre américaine des représentants, les républicains sont toujours sans speaker ce mardi, incapables de s'accorder malgré la pression pour agir en faveur de l'Ukraine et d'Israël. Les conservateurs se réuniront donc ce soir pour entendre l'exposé des deux candidats déclarés au poste de speaker. D'un côté, le chef de groupe Steve Scalise, 58 ans, membre de la droite dure. De l'autre côté, le pugnace Jim Jordan, d'un an son aîné et à la tête de la commission judiciaire de la Chambre. Une première élection informelle doit être organisée à huis clos demain. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
La Banque africaine de développement a approuvé un don de 6,72 millions de dollars à la Gambie pour soutenir la mise en œuvre de la première phase du programme de gestion des finances publiques et de réforme économique. L'objectif est d'améliorer la gouvernance et la résilience fiscale en Gambie en soutenant les réformes de la gestion des finances publiques et en renforçant les systèmes de protection sociale afin de réduire la pauvreté qui affecte les populations vulnérables. Chevron a interrompu les exportations de gaz naturel via un important gazoduc sous-marin entre l'Égypte et Israël pour des raisons de sécurité liées au conflit militaire entre Israël et le Hamas, indiquent des sources industrielles et gouvernementales. Le gazoduc MG relie la ville d'Ashkelon dans le sud d'Israël en Égypte où il se raccorde à un pipeline terrestre. Ce gazoduc de 90 km est le principal lien entre le champ gazier offshore Léviathan, exploité par Chevron, et l'Égypte.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Les pays qualifiés pour la prochaine CAN ont les yeux rivés vers Abidjan.
Oui, la capitale économique de la Côte d'Ivoire accueille ce jeudi 12 octobre le tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier et février prochain. Notre consultant sportif à Casablanca, Amin Birouk, sera du côté de la Lagune Ébriée. Bien avant, il revient sur cet événement à venir et sur le match amical prévu ce week-end entre le pays hôte de la CAN, la Côte d'Ivoire, et le Maroc.
Abidjan is a place to be. Je pense que tout au long de la semaine, on ne parlera que de la capitale économique de la Côte d'Ivoire avec le tirage au sort aujourd'hui de la phase de groupe de la Champions League féminine. Mais, bien évidemment, tous les regards sont tournés vers le tirage au sort de la CAN, de la vraie, de la seule, de l'unique. Côté marocain, on attend avec beaucoup de sérénité ce tirage. Les Lions de l'Atlas, emmenés par Walid Regragui, vont partir en Côte d'Ivoire pour s'acclimater, prendre leur repère à travers un match amical disputé samedi au stade Félix Houphouët-Boigny face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et ce déplacement en Côte d'Ivoire aura le mérite de voir l'équipe du Maroc sortir un peu de cette zone de confort et puis rencontrer un des prétendants à la CAN, puisque le pays organisateur aspire à un troisième succès après les sacres de 1992 et de 2015.
Toujours en amical, le Sénégal, lui, va affronter le Cameroun.
Ce sera le 16 octobre à Lens, en France, pour cette rencontre amicale. Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, a convoqué 26 joueurs. Cette liste, presque identique à celle contre l'Algérie, est marquée par l'arrivée de Mamadou Sané et Noah Fadiga, fils de l'ancien Lion de la Teranga, Halidou Fadiga. Écoutons Aliou Cissé.
Nous jouons face en Grande Afrique, à son sein de grosses individualités. Ça sera un match très important et comme nous, on a toujours l'habitude sur les matchs importants de faire de notre mieux et surtout de faire de très 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 bonnes choses. On a l'intention en tout cas sur ce match-là de faire aussi de très bonnes choses. Contre l'Algérie, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites, mais il y a aussi des petites choses que nous devons progresser. Et à travers ce match-là contre le Cameroun, ce que j'attends, c'est qu'on puisse réagir déjà par rapport à la défaite contre l'Algérie et à nouveau recommencer encore à gagner.
Aliou Cissé, coach du Sénégal au micro d'Amdine Sy.
Eden Hazard raccroche les crampons.
Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel, a écrit sur Instagram, l'attaquant belge de 32 ans, Eden Hazard, a fait ses débuts en Ligue 1 à 16 ans avec son club formateur, Lille. Il passe ensuite 7 saisons à Chelsea de 2012 à 2019, arrivé au Real Madrid en juin 2019 pour 115 millions d'euros. Le milieu offensif collectionne les blessures. Il n'a inscrit que 7 buts pour le Real en 76 apparitions, toutes compétitions confondues, avant de résilier en juin dernier son contrat qui est expiré en 2024. Avec le club merengue, il a remporté 2 titres de champion d'Espagne, une Coupe du Roi et une Ligue des Champions.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les États-Unis ont formellement qualifié ce mardi la prise de pouvoir des militaires au Niger en juillet de coup d'État. Washington dit avoir épuisé toutes les voies disponibles pour préserver l'ordre constitutionnel au Niger et supprimer près de 442 millions de dollars d'aide économique. Cette décision tombe au lendemain d'un entretien téléphonique du secrétaire d'État Anthony Blinken avec le président renversé, Mohamed Bazoum. Les États-Unis réitèrent leur appel à la libération de M. Bazoum, de sa famille et de toutes les personnes détenues. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique.
Je suis un peu surpris parce que pour l'Amérique, le développement économique en Afrique, c'est plus important que d'autres dossiers. Et ça montre que président Biden donne une très grande priorité en Afrique à la démocratie, à la transparence. Et j'en suis très content. C'est un moyen de dire à tous les autres pays africains que l'argent des États-Unis est réservé pour les pays démocratiques. Et malgré notre l'importance pour nous de développement économique, c'est très important en Amérique, quand même, notre argent est réservé pour les pays qui ont des systèmes démocratiques et transparents. Et j'en suis très content.
Est-ce que ça signifie que cette décision pourrait aussi entraîner d'autres coupes d'aide, notamment en matière de sécurité?
Oui, ça peut entraîner ça, mais pour le moment, je ne vois pas d'autres pays qui reçoivent notre aide militaire qui sont en même temps des pays autoritaires. Je peux être dans une erreur là, mais en général, je crois que la coopération militaire est réservée pour les pays qui sont en Afrique, au pays où nous avons un espoir que la démocratie va être en état de croissance.
Qualifier un pouvoir de coup d'État, est-ce que c'est synonyme de reconnaître un coup d'État?
Oui, oui, c'est-à-dire nous avons eu un changement de régime et c'était à cause d'un coup d'État. Donc, ça ne veut pas dire que nous acceptons que ce soit légitime. Mais il y a des moments où il faut travailler avec le régime en place, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts militaires. Et c'est souvent nécessaire de travailler avec le régime en place. Regardons le Mali, qui est là à cause d'un coup d'État, et plusieurs d'autres. Et il faut reconnaître la situation qui existe, n'est-ce pas? Et il faut poursuivre vos intérêts dans le contexte des situations qui existent.
Ça veut dire que le retour au pouvoir du président Bazoum n'est plus une option?
À mon avis, ce que le secrétaire d'État Blinken a dit, c'est nous souhaitons le retour au pouvoir du président Bazoum. Parce que c'est tragique si un président élu démocratiquement soit écarté. Par exemple, au Gabon, il y a un coup d'État contre une famille qui était au pouvoir pendant 50 ans. Je peux voir quelque chose de positif là-dedans. Mais écarter un président démocratique élu, ça c'est une tragédie et il ne faut pas l'accepter.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique.
Il y a des cas d'assassinats.
Human Rights Watch accuse les autorités rwandaises d'être responsables de meurtres, d'enlèvements et de tentatives d'enlèvement, de disparitions forcées et d'agressions physiques visant des Rwandais installés à l'étranger. L'ONG appelle la communauté internationale à lutter contre ce qu'elle qualifie de répression extraterritoriale. La porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, dément ces accusations. Yakuba Ouedraogo a joint dans le Vermont, dans le nord-est des États-Unis, Lewis Mudge, directeur Afrique centrale de Human Rights Watch.
Il y a des cas d'assassinats. Il y a des gens, particulièrement en Afrique du Sud, par exemple, qui étaient en fait tués. Il y a les liens jusqu'à Kigali. Mais aussi, on a écrit plusieurs choses par rapport à les menaces, les kidnappings, tentatives de kidnapping, les gens qui étaient vraiment menacés là où ils se trouvent, même en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie. Les parents de ces gens-là qui continuent d'être menacés sur le sol rwandais. Donc c'est vraiment un effort de la part de Human Rights Watch pour montrer que cette répression continue 2017 jusqu'à aujourd'hui.
Qui réprime ces personnes-là et pourquoi?
Le qui, en termes d'individuels, c'est difficile d'établir. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tout vient à la base, selon nos sources et selon les recherches, tout vient de Kigali. C'est les gens qui ont le lien avec l'ambassade de Rwanda. C'est les gens qui parlent bien sûr le canon Rwanda. C'est les gens qui ont menacé les gens. Ils ont dit trop tard, tu reviens au Rwanda. Ou bien pourquoi vous êtes contre le FPR, le parti de pouvoir actuellement au Rwanda. Et vous allez voir, on va vous amener encore au Rwanda. Donc c'est difficile d'établir vraiment qui, mais ce qu'on peut dire, c'est à la base, ça vient de Kigali. Et le pourquoi, les gens qui sont ciblés, ils sont soit opposants, ou bien c'est les gens qui sont présumés d'être opposants. Ça veut dire que peut-être c'est un réfugié rwandais qui a refusé de s'intégrer dans la diaspora. Ça veut dire le groupe dirigé par le ministre des Affaires étrangères pour diriger les affaires de diaspora.
Porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, a dit que ce rapport porte des accusations qui sont fausses et que vous avez une image du Rwanda qui ne reflète pas le vrai Rwanda et donc l'image réelle du Rwanda. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Lorsque nous avons publié par rapport de les gens qui sont détenus à Kwagachinia, à Kwakabuga, ils ont dit les mêmes choses. Lorsque nous avons publié par rapport il y a des années sur les gens qui sont torturés à Camp Camille, c'est la même chose. Ils ont utilisé mot par mot exactement les mêmes choses. Ils ont continué avec le même chantage.
Est-ce que vous avez eu une réaction de la part du gouvernement rwandais par rapport à ce rapport?
Non, il y a deux mois, nous avons partagé le bilan de notre rapport avec le gouvernement rwandais dans une lettre très longue de plus de 25 pages. On a détaillé toutes les recherches, on a demandé des questions, on a demandé de l'audience. Nous avons envoyé une équipe le mois passé à Kigali pour parler avec la Commission nationale des droits de l'homme. Malheureusement, de la part de Kigali, c'est le silence radio.
Lewis Mudge, directeur Afrique centrale de Human Rights Watch.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24 heures sur 24.
L'offensive du Hamas contre Israël a surpris beaucoup dans le monde, mais ne laisse aucun pays indifférent. Les réactions des Guinéens avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Abdourahmane Dia avec vous, dans Washington Forum cette semaine, le Moyen-Orient en...
Voilà, on retourne à notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
L'attaque du Hamas contre Israël samedi a pris la plupart des puissances régionales par surprise, mais de nombreux analystes affirment que l'Iran aurait approuvé l'assaut à l'avance. Nina Khatib est la directrice de l'Institut du Moyen-Orient de l'Université de Londres.
Depuis plusieurs années, l'Iran soutient le Hamas en le finançant, en l'entraînant et en lui fournissant des équipements militaires. La décision d'entrer en guerre des groupes comme le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique et d'autres ne peuvent se produire qu'avec l'accord explicite, préalable et direct de l'Iran. Mais cela est très différent de l'affirmation selon laquelle l'Iran a ordonné à ces groupes de commettre ces attaques. L'Iran a qualifié les actions du Hamas de « manifestation de la résistance », mais a nié toute responsabilité. Le président israélien, Isaac Herzog, a blâmé un axe maléfique dont la base est en Iran. Les responsables israéliens affirment qu'il n'y a pas de preuve directe que Téhéran a dirigé l'attaque. Khaled Elinji, de l'Institut du Moyen-Orient à Washington.
Il s'agit d'une opération lancée par un groupe palestinien qui a ses motivations propres. Le Hamas n'est pas un agent ou un mandataire du régime iranien, bien qu'il puisse y avoir des convergences d'intérêts.
Quel intérêt l'Iran aurait-il à ce que le conflit entre le Hamas et Israël reprenne ? Les alliances géopolitiques évoluent rapidement. L'Arabie saoudite et Israël tentent de normaliser leurs relations diplomatiques avec le soutien des États-Unis. L'autorité palestinienne, un rival interne du Hamas, participe au pourparlers.
Merci à Claire Morin-Gibou, dont vous aurez reconnu la voix. Elle parlait du soutien de l'Iran au Hamas, qui est scruté après l'attaque surprise du mouvement palestinien contre Israël. Plusieurs centaines d'Israéliens et de Palestiniens ont été tués, je vous le rappelle. Sur le continent, l'offensive du Hamas contre Israël a surpris beaucoup dans le monde, mais ne laisse donc aucun pays indifférent, notamment en Afrique. Les réactions des Guinéens maintenant avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Il condamne avec la dernière énergie pour que Israël doit se défendre. Ils doivent finir avec le Hamas. Ils doivent éradiquer le Hamas. Parce que c'est trop, c'est trop.
La Palestine est souvent soutenue par le monde arabe, bien sûr. Et l'Israël aussi est soutenu par les États-Unis. Et une fois que les deux se font des conflits, ça pourrait dégénérer des préjudices dans le monde entier.
Les Palestiniens sont en train de défendre leur territoire. Hein? Prenez la mosquée Bayt al-Muqaddas qui se trouve en Jérusalem. Hein? Cette mosquée appartient à qui ? Aux musulmans. On interdit les musulmans de venir prier ici, dans cette mosquée. Hein? C'est les juifs qui interdisent les musulmans de prier dans leur mosquée. Si la Palestine frappe l'Israël, elle a raison. Elle est en train de défendre son territoire.
Moi, je comprends un peu la motivation du Hamas qui défend la cause palestinienne. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la Palestine, c'est, disons, une nation qui est marginalisée, qui est colonisée en quelque sorte par Israël. Et les enfants de ce pays, la population de ce pays aujourd'hui a soif de justice. La justice, c'est d'être un État indépendant vis-à-vis d'Israël. Et cela n'est pas encore acquis.
Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire de nos frères de la Palestine. On ne peut pas utiliser la population civile. Parce que ce que je vois dans les images, je vois des vieilles personnes de plus de 80 ans, 85 ans. Je vois des jeunes gens, des femmes, des enfants. Et nous savons tous que même en temps de guerre, normalement, c'est une couche vraiment vulnérable. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc on ne peut en aucun cas s'en prendre à une population civile pour légitimer sa position ou plutôt pour les utiliser comme des boucliers humains.
Beaucoup estiment que la Palestine a été victime de plusieurs décennies d'injustice. Mais par contre, il faut quand même reconnaître que c'est quand même un pays qui s'est aussi distingué dans des réactions assez disproportionnées. Et tout simplement parce que au début c'était l'intifada. On pouvait comprendre, mais aujourd'hui, si on utilise le même procédé que les terroristes, je crois que cela ne peut pas être soutenu. La Palestine aussi est en train de s'inscrire dans la logique de la violence, une violence qui fait des victimes innocentes. Et je pense que cela ne peut pas continuer à être encouragé.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro. À la mise en onde, Max Firmin Koyaweda. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.